Une partie de la bibliothèque, c'est pas cool.
Bien. Alors, nous sommes au début de la Megillat Esther. Donc, vous avez un Chumash Shemot.
Non, c'est pas la Megillat.
Bien. Qu'est-ce qui se passe? Au début de la Megillat, on parle. Il n'y a pas du tout d'antisémitisme, tout va bien. L'empereur Assuérus l'empereur Assuérus, donc, pour asseoir son pouvoir, fait un immense festin pendant 6 mois. Bon, il faut voir tous les détails. Et Rashi fait allusion qu'il fait son festin au bout des 70 ans que les prophètes avaient prophétisé que le temple serait reconstruit. Finalement, le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit. Et donc il dit, bon, le Dieu d'Israël, il doit être mort. Donc justement, on parle pas de Dieu. Donc ça c'est fondamental. Dieu est absent. Voilà. C'est pas Nietzsche qui a tué Dieu, c'est Megillat Esther, la mort de Dieu. Voilà. Ok. Et donc il fait son festin, etc. Et à la fin de tout son festin, il y a, au bout des 180 jours, il fait 7 jours pour les gens de Suse. À la fin, à l'apothéose de ça, il demande qu'on envoie chercher sa femme, qu'elle vienne faire un striptease devant tout le monde. Elle dit, va te faire voir, enfoiré. Ouais, elle refuse. Il est en colère, il ne sait pas quoi faire. Alors, il y a quelqu'un qui lui dit... Peut-être, c'est un très mauvais exemple pour toutes les femmes de l'Empire. Vous avez un empire incroyable, 127 provinces. Si tout le monde apprend qu'est-ce que votre femme n'a pas voulu venir sous votre ordre, ça va être la débâcle dans tout l'Empire. Donc il faut frapper peu mais fermement. C'est pas écrit dans le texte. Il dit, et son trône, on la donnera le meilleur qu'elle. Et elle, qu'est-ce qui va devenir d'elle? C'est pas écrit dans le verset. Si vous regardez dans le verset, c'est pas écrit. Son trône, on la donnera. Et elle, c'est désintégration automatique, mais c'est pas écrit dans le texte. Okay. Donc finalement, il élimine, et les jours passent, et il est tout triste, tout déprimé. Il se souvient de Vashti, combien elle était belle, et patati. Et ses pages disent, « Oh, sire !» Donc c'est comme ça, hein, la Megillat. « Oh, sire, comme vous êtes triste. Oh, sire, comme vous êtes déprimé. Il faudrait trouver une solution. » Ah, peut-être faudrait-il trouver une remplaçante. Hein, très, très bien. Alors, il dit, « Ah, quelle bonne idée !» C'est vraiment comique. Quelle bonne idée. Et alors, il dit, oui, on va chercher les plus belles filles de l'Empire, et patati et patata. Et c'est comme ça que ça commence, chapitre Bet, verset He. Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, Ushemo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini. Un homme juif, Yehudi, était à Suse la capitale. Son nom, Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini. Un homme de Yemini. C'est quoi Yemini? Comment?
Il était UMP.
C'était Gérard Longuet. Non mais Gérard Longuet, ça c'est une blague de pourrime, ça. Surtout, c'est un Lorrain comme moi, c'est incroyable. Le mec, bon, enfin, passons. Le sujet, c'est pas Gérard Longuet, mais il a dit de droite. Ça, c'est super rigolo, Gérard Longuet. Il m'a bien fait rigoler. Alors, mais. bon. Ishéminis, c'est-à-dire de Binyamin, la tribu de Binyamin. D'accord ? Mais au début du verset, Ishéoudi, il est de Yehuda. Il est de Yehuda, il est de Binyamin, il est quoi ?
Il a été exilé avec Yehuda, avec le royaume de Yehuda, de Juda, mais il est de Binyamin.
Bon, disons. Okay. Bon, il y a plusieurs explications dans le traité Megillah.
Ah, c'est Rachid.
Il a deux parents, au pire.
D'accord. Oui, aussi, qui disent que son père était de Binyamin, sa mère de Yehuda. Enfin, plusieurs explications. Verset suivant. Asher ogla mi Yerushalayim, imagola asher ogleta imechania meler Yehuda asher Egla, Nebuchadnezzar, Meler Bavel. Donc cet homme juif, qui s'appelle Mordechai, qui a été exilé de Jérusalem avec l'exil, qui a été exilé avec Yéhania, roi de Judée, qui a exilé Nabucodonosor, roi de Bavel. Je trouve que l'auteur se répète. Hein ? J'écris quatre fois le mot exilé. Donc, cet homme qui a été exilé de Jérusalem avec l'exil, qui a été exilé avec Yéhania, qui a exilé Nabucodonosor. Vayoyi Omen et Adassa i Esther, bat dodo, qui est là à Vaem, Vanara, Yefat Toar, Vetovat Mare, Obemot Avia, Veima, le Kara, Mordechai, l'Olebat. Il était Omen, c'était le tuteur de Hadassa, qui est Esther. Bat dodo, ça veut dire quoi bat dodo ?
Sa cousine, la fille de son oncle.
Sa nièce.
Comment ?
Non, la fille de son oncle.
Sa cousine.
Alors, regardez, d'où est-ce que tout le monde...
Ouais. A dit sa nièce.
Tout le monde dit sa nièce.
Parce que c'est son...
Monsieur Bibas.
Son oncle qu'il a adopté. On imagine qu'elle est beaucoup plus jeune que lui.
Comment ?
J'imagine plus jeune que lui, donc je me dis c'est un peu comme sa nièce. En fait,
son nom qu'il a adopté. C'est ce qu'on dit.
C'est sa cousine, c'est écrit explicitement, ouais, c'est sa cousine. Ouais, c'est incroyable,
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Donc, je pense qu'on est tous des lecteurs de Racine qui ont lu le Esther de Racine, on s'est écrit sa nièce. Ouais, je pense que c'est Racine, ouais. N'est-ce pas ?
Oui, bien sûr.
Certainement.
C'est la Racine.
N'est-ce pas ?
De l'erreur. C'est sa cousine, là.
J'ai un fils qui s'appelle Akiva Mordechai. Alors, donc il y a Mordechai. Et alors, il y a un ami de mes parents, non juif, il voulait savoir comment j'avais appelé mon fils qui venait de naître il y a quelques années. Alors je lui dis, un professeur des écoles, je lui dis Mardoché. Ah, comme de Racine. Il était content. Mais oui, monsieur. Évidemment. Alors, donc, c'est évidemment dans le Esther de Racine, c'est écrit sa nièce. Mais c'est très surprenant parce que nous avons le texte devant nous et dit que c'est sa cousine. Alors ça, bon, ok. Vayui Omen, c'était le tuteur de Esther, qui est la fille de son oncle, donc sa cousine. Pourquoi il était le tuteur qui est là à Vaem? Parce qu'elle n'a ni père ni mère. Vanara Yefatoar Vetovat Mare. La jeune fille est très belle. Uvemot Avia Vima, le Kara Mordechai Lolebat. À la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'a prise comme fille. Bien, regardons Rashi. Verset Zayin. Qui c'est qui me lit Rashi ? Nous. Lo les bat, verset Zayin. Rabotez-nous Pirchou, la baït. Ne dit pas les bat, mais baït. Les isha. C'est-à-dire, il l'a prise comme femme. C'est-à-dire qu'il y a une répétition dans le verset, puisqu'on dit que c'était le tuteur et qu'elle était orpheline, à la mort de son père et de sa mère, il l'a prise comme fille. Alors, prise comme fille, oui, le verset nous dit le kara Mordechai, le kara lo lebat. Le mot le kara, la prendre comme fille. Qu'est-ce que c'est la prendre comme fille? Alors, le sens simple, si vous voulez, pour le bon peuple, ça veut dire il l'a adopté. Mais ce terme de le kara est un langage d'épouser. Épouser. Alors pourquoi n'est-ce pas écrit explicitement? C'est-à-dire parce que ça va changer toute l'optique de la Megillah. Dire que c'est la femme de Mordechai, ça va compliquer terriblement la suite, enfin plutôt le début de la Megillah. Ça va changer tout, toute la donne.
Mais alors on veut être politiquement correct, on ne veut pas nous choquer, c'est ça? On ne veut pas nous embêter?
Oui.
Depuis quand dans la Torah on essaye de nous cacher, enfin, de nous arranger pour que ça ait l'air mieux?
Tout le temps.
C'est pour pas.
Il y a des choses. Regardez, je, est-ce qu'il y a des gens ici qui viennent de l'apprendre?
Oui.
Bon, pourquoi? Parce que, comment dire, d'abord, l'histoire est terrible. C'est une histoire terrible, même si elle n'est pas mariée. C'est une jeune fille juive qui va devenir la favorite d'un empereur. Excusez-moi l'expression, dégénéré, puisque sa femme, elle ne fait pas des bêtises, il demande à sa femme de faire des bêtises, elle refuse, il l'envoie au crocodile. Je veux dire, il est fou ce type, c'est complètement, je ne sais pas, c'est que ça ne fait pas penser, je ne sais pas, Kadhafi, moi je ne sais pas, non, c'est un taré, je veux dire, excusez-moi l'expression, c'est un taré, elle devient la favorite d'un taré. Quand on voit tous les détails, on se rend compte de qui c'est Assuérus. Bon, et d'ailleurs le thème d'Esther a été un grand thème métaphysique à l'époque des Juifs maranes, que ça représentait une partie importante de la population juive en Espagne s'est converti pour la façade au christianisme, au fin 14e siècle, 15e siècle. Et y en a qui ont trouvé des sources métaphysiques à l'histoire d'Esther, que elle finalement, c'est une juive marraine dans une certaine mesure. Elle ne dit pas qui elle est, elle vit sa vie, elle sauve le peuple juif. Elle est juive et d'un autre côté, elle est païenne. D'ailleurs, on vient de voir le mot Hadassa y Esther. Hadassa, c'est un nom hébraïque. Esther, c'est un nom chaldéen, babylonien. Elle a un prénom juif qui s'appelle Hadassa et un prénom local, Esther, qui est un prénom chaldéen. Voilà. Je ne sais pas comment. Voilà. Donc, il y a une ambiguïté fondamentale. Déjà, c'est terrible. Mais si tu rajoutes à ça que c'est la femme de Mordechai, et c'est ce que nous allons voir, c'est la femme de Mordechai, pas seulement la femme de Mordechai, mais la femme de Mordechai qui a été exilée de Jérusalem. Les Chachamim disent qu'il avait siégé à l'intérieur du temple de Jérusalem en tant que membre du Sanhédrin Agadol, du grand tribunal rabbinique. Donc c'est la femme du grand maître de Torah de la génération qui va devenir la favorite de Hugo Chavez. Non, t'hallucines, je veux dire.
Mais même au niveau du sens, c'est un problème, parce que quand Assuérus cherche une femme, il cherche une femme même mariée, il va scanner même les femmes mariées, ou il va regarder que les femmes non, mariées.
C'est pas qu'il cherche déjà plus, parce
qu'il veut dire, attends, tu veux te marier, d'accord, mais tu veux te marier avec ma femme.
Ça, c'est ce que dit la Megillah, mais en fait, elle a été enlevée, Esther. Elle a été raptée, quoi, les sages. Il y a une explication des sages qui disent qu'elle a été victime d'un rapt. Hein.
Bah, évidemment, c'était des rapts. Évidemment, elle se cachait, etc. Mais, on voit des versets qui ont pris même des femmes mariées.
Et dans, le terme, il est sans ambiguïté.
Comment
sans, le terme est sans ambiguïté dans l'hébreu pour l'épouse, son épouse. Où il y a un doute.
Le verset laisse une ambiguïté. Le kara lo lebat, il l'a prise comme fille. Point.
D'accord.
Mais la tradition talmudique nous dit, c'est ça. Alors, si vous voulez, ici nous voyons la force du commentaire de Rashi. Rashi sur la Megillat Esther, et nous savons que Rashi est un des très 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 grands commentateurs. Mais il y a Rashi sur le Pentateuch, il y a Rashi sur le Talmud, il y a Rashi sur les textes prophétiques, et Rashi dans Megillat Esther. Rashi sur la Megillat Esther est d'une concision extrême. Mais vous voyez ici, il nous dit un mot, mais ça change tout. C'est le mot qui tue. Avec un mot, il introduit la vision talmudique dans le texte, qui va changer tout l'optique, toute la problématique même. Alors, tous les ans, on aborde une certaine thématique. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui redoublent. Donc je ne vais pas faire la thématique que nous avons dit les dernières années, mais je vais faire un autre point, mais où ça c'est fondamental. Cet élément-là est fondamental. Continuons. Donc il a pris comme fille. Alors la question, votre question, mais est-ce qu'il y a du politiquement correct? Oui. Oui, c'est sûr que le... C'est ça justement la dimension de la tradition orale. La tradition orale va nous dire, regarde bien le texte, il y a des choses derrière. Mais on n'a pas tous la force de supporter des choses comme ça. Justement, c'est ça la dimension justement talmudique. C'est qu'il y a le texte, pour reprendre une terminologie un peu qu'a dit Menachem tout à l'heure, un peu biblique, un peu, légendaire, c'est une légende, bon, c'est, voilà, c'était le tuteur d'Esther, patati patata. Bon, mais dès que tu dis que c'est sa femme, ça nous met dans l'existence la plus prosaïque, et même, excusez-moi l'expression, la plus glauque. On est tout de suite dans une problématique dure de l'existence.
Dérangeante.
Et c'est ça la dimension talmudique. La dimension talmudique qui aborde tout le temps les choses dans le côté cru de l'existence. D'ailleurs, au fil des siècles, par exemple, la culture chrétienne a toujours exécré le Talmud. Parce que il y a eu, par exemple, au XVIIe siècle, en Italie, il y a eu un autodafé intégral du Talmud en Italie. Nous savons qu'ici, à Paris, il y a eu, au XIVe siècle, la grande brûlerie du Talmud en place de Grève, place de l'Hôtel de Ville, parce que pour les chrétiens, comme c'était à l'époque, le Talmud, c'était les livres qu'il fallait brûler. Le Talmud était insupportable. Et le Talmud est insupportable. C'est insupportable.
C'est Rashi qui dit...
Non, ça c'est le Talmud.
Ah, c'est le Talmud.
Rashi ne rapporte pas ça. Continuons. Verset 7, verset suivant. Vayoyi, Be'ishama devar ameler vedato, O be'ikabetz narot rabot el shushan abira eliad egay, Va-t-il à Kar, Esther, Elbet Ameler, Eliad et Gaï, Shomer Anashim. Ce fut quand a été entendue la parole du roi et son édit, quand ont été rassemblées les nombreuses jeunes filles à Suse, la capitale, sous la responsabilité de Egaï, Esther a été prise. Donc, c'est-à-dire, dans tout ce truc-là, elle a été prise. Normalement, peut-être n'aurait-elle pas dû être prise? Mais elle a été prise. Il se trouve qu'elle a été prise dans le tas. Bon. C'est pas exactement comment ça se fait qu'elle a été prise. « Elle a été prise donc dans le harem du roi, Elbet Ameler, Eliad et Gaï, sous la responsabilité de Gaï, le gardien du harem. Vatitav anara be'enav, vatisa chesed lefanav, vaivael et tamrukea, vet manotea la tetla, vet sheva neharot aroyot la tetla, mi bet ameler, vaishanea vet narotea letov bet anashim. Vatitav anara be'enav, donc le gardien du harem s'appelle monsieur Egaï. La jeune fille lui a beaucoup plu. Vatissa chesel le fanav. Elle a porté grâce à ses yeux. Alors là, ça c'est un thème fondamental. C'est que Esther, tout le monde l'aimait. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça ? Oui, très bien. Tout à fait. C'est la même thématique que Yosef. Yosef, il se trouve en prison sous une accusation, mensongère, rejetée dans le cachot. Et le gardien, le chef de la prison, il dit, c'est un jeune homme extraordinaire celui-là, extraordinaire. Et tout de suite, il lui donne des responsabilités. C'est les enfants de Rachel. Puisque Yosef, Rachel a eu deux fils, Yosef et Binyamin, Esther descend de Binyamin, et Yosef descend, donc Yosef, c'est aussi un fils de Rachel. Donc il y a cette thématique comme ça, on ne sait pas qui elle est, mais tout le monde est attiré par elle, veut l'aider. Et sous le charme. Entre parenthèses, cette thématique est fondamentale, c'est pour ça que Racine a écrit Esther. Pourquoi, là ? Comment ?
J'ai pas lu.
Pourquoi Racine a écrit Esther ? Monsieur Guy, là, hein ? Comment ?
C'est une histoire avec une reine.
Parce que c'est la thèse du jansénisme. C'est la thèse de la grâce. C'est-à-dire la thèse du jansénisme, c'est la lecture chrétienne du livre d'Esther, qui n'est, chas de shalom, pas la nôtre. Mais je vous le dis, parce qu'on le voit ici, on pourrait voir ça, et nous allons voir comment les chachamim vont travailler le texte, justement pour sortir de cette lecture première du texte. On pourrait avoir une lecture d'où vient cette grâce d'Esther. Parce que, si je ne m'abuse, donc à fin XVIIe siècle, il y avait donc un mouvement catholique qui s'appelait janséniste. C'était ici, à Paris. Hein, c'était aussi à côté, dans la région.
Le salut vient par la grâce et pas par les actes.
Voilà, et pas par les actes, exactement. C'est-à-dire que c'est la thématique de la grâce. C'est aussi une thématique qui se trouve dans une certaine vision protestante, et pas par le libre arbitre. Qu'il y a certains êtres qui ont la grâce de Dieu. En vérité, l'homme n'est pas libre, mais tout dépend de la grâce de Dieu. Bon, ça a été considéré comme une hérésie dans le christianisme. Il y a eu des persécutions des jansénistes, etc. Machin. L'abbaye de Port-Royal a été fermée par Louis XIV, machin. Et Racine, qui était janséniste, a écrit ça parce que c'est Esther, il y a la grâce divine. Alors, a priori, tu vois le texte. Ça a l'air de ressortir, c'est pas complètement hors sujet. C'est pas complètement hors sujet, mais on va voir comment les Rachamim vont travailler ça. Alors, Vatita Vanara Bena, elle a trouvé grâce à ses yeux. Vatissa Chesed le Fanav. Et il l'a chouchouté. Il l'a chouchouté, il l'a donné 7 servantes. Pourquoi 7 servantes ? Pour qu'elle sache dans ce harem, quand est-ce que c'est Shabbat. Il y avait la servante du dimanche, du lundi, du mardi, mercredi, du samedi. Et ça, il y avait, ça tournait pour qu'elle puisse savoir là-dedans quand est-ce que c'est Shabbat, pour garder Shabbat et machin, bidule, elle se débrouillait.
Question, est-ce que Egaï c'était Daniel, comme certains disent?
Non, c'est Attar, pas Egaï, personne. Donc c'est... Verset Yud. Lo Igida Esther et Ama vet moladeta ki Mordechai tziva alea asher lo tagit. Esther ne dit pas son peuple ni son origine, car Mordechai lui a ordonné de ne pas dire. Alors ça, c'est très très important, très important que elle est en confiance avec Mordechai. Elle est en confiance avec Mordechai. Et Mordechai lui dit, tu sais, ne dis pas qui tu es. Ne dis pas que tu viens de la famille du roi Shaoul. L'empereur, il va te lâcher comme ça. C'est sûr que l'empereur ne va pas épouser une femme dont on ne sait pas d'où elle vient. L'empereur, c'est un empereur. Justement, Vashti était la petite fille, la petite fille de Nabucodonosor. Dans ses lignées royales, on se marie avec... Il y a des alliances politiques. Donc, épouser une femme d'une extraction inconnue, jamais il va t'épouser. Donc, surtout, please, je te demande une chose. Ne dis pas ni que tu es juif, ni que tu viens de la famille du roi Shaoul. Rien. Motus. Motus. Mais en vérité, ça va se renverser parce que ce silence, ce mutisme va attirer au contraire Assuérus. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Au contraire, ça va le goût de l'inconnu va l'attirer. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Dire surtout, ne dis rien du tout. Verset Yud Alef. Ou Becholiom Vayom Mordechai Mitaler Lifne Chatzar Betanashim Ladat et Shlom Esther Umaya Seba. Chaque jour et chaque jour, Mordechai fait les 100 pas devant la cour du harem pour savoir comment va Esther ou Maya Seba. Alors, et qu'est-ce qui va se faire par elle? Rashi rapporte le Midrash qui dit cette expression n'est pas normale. Je reprends. Ou Bechol Yom Vayom. Et chaque jour et chaque jour, Mordechai fait les 100 pas devant la cour du harem pour savoir comment va Esther ou Maya Seba. Maya Seba, traduction précise, qu'est-ce qui va être fait par elle, en elle? Qu'est-ce qu'il va faire en elle? Mais rien du tout. Rashi rapporte le Midrash. Il est sûr qu'il va se passer quelque chose. Il est sûr qu'il va se passer quelque chose. Mais il ne se passe rien. Pour le moment, Esther, elle est là dans le harem. Elle n'est même pas choisie. Parce qu'il y a des centaines de femmes, et c'est une après l'autre. Chaque soir, ça passe, il y a des centaines de bonnes femmes. Donc pour le moment, il ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans ce harem de fou. Quoi. Il est là comme ça. Et bien, tous les jours, il fait les 100 pas. Et le miracle va venir par le fait qu'il fait les 100 pas. Comment?
Il entend les deux gardes.
Voilà. Et tous les jours, il passe. Voilà. Il fume sa clope. Là, il est avec son, je sais pas, son Walkman. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait tous les jours. Il récite des Mishnayot. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fabrique. Mais en tout cas, chaque jour, il passe. Et pendant combien de temps ça se passe, ça? Et bien pendant des années. Ça se passe pendant des années. Puisque, quand est-ce qu'elle a été éliminée, Vashti? C'est à la fin, c'est la quatrième année, puisqu'il y a eu 3 ans. Au bout des 3 ans, il a fait son festin. Le festin a duré 6 mois, donc c'est dans la quatrième année. Esther va être choisie. Quand est-ce qu'elle va arriver chez le roi? Elle va arriver chez le roi. Excusez-moi. Le verset Tetzaïn nous dit Tetzaïn va tilakar Esther el amelech Achashverosh el bet malchuto bachodesh asiri ou chodesh tevet beshnat sheva le malchuto. Donc ça fait 3 ans et demi. La 7e année, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il fait les 100 pas, pour savoir. Et pour le moment, il ne se passe rien, puisque c'est seulement au verset Kaf Alef. Yamimahem au Mordechai Yoshev Beshar Ameler Katsa Biktan va Teresh Shene Asarise Ameler. Dans ces temps-là, donc c'est après la 7e année, il continue à faire les 100 pas, continue à faire les 100 pas, et il entend les deux gardiens de la garde prétorienne qui fomente un complot. Et c'est là que Mordechai dit à Esther, attention, il vaut mieux que tu préviennes, c'est meilleur pour nous que tu préviennes l'empereur. Et c'est seulement après, chapitre guillemets, verset Aleph, que Aman apparaît. Jusque-là, Aman,
Gérard Rouguet.
Ouais, exactement. C'était.
Coiffeur.
C'était. Comment ?
Coiffeur, non ?
Ouais, je sais pas. C'était un petit mec, quoi, du palais. Enfin, Memouchan, on l'a vu avant. Hein, on dit Memouchan. C'est un type du palais. Insignifiant. C'est seulement après. Donc le miracle se passe finalement par la détermination de Mordechai de tous les jours faire les 100 pas. Tous les jours faire les 100 pas. Maintenant, pourquoi il fait tous les jours les 100 pas ? Regardons, je reprends le verset. Verset absolument clé de la Megillat Esther. Ou bechol yom vayom Mordechai mitaler lifnei chatzar bet anashim. La date est Shlom Esther mayasemba. Chaque jour et chaque jour, Mordechai fait les 100 pas devant la cour du harem pour savoir comment va Esther. Bon, ça c'est légitime, ça va. Ou mayasemba. Qu'est-ce qui va être fait par elle? Mais qu'est-ce qui va faire par elle? Mais il n'y a rien. Alors, regardons le commentaire de Rashi. Verset Yudalef, et ça, le Rashi. Bon, Rashi rapporte le Midrash, Midrash Rabba, de Esther Rabba, qui est absolument sublime, ou Maya Seba. Ze echad, meshne tzadikim, shenitan lahem remez Yeshua. Il y a eu deux tzadikim, qui ont eu un clin d'œil de délivrance. David et Mordechai. David, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rapporte succinctement, on voit dans le livre de Shmuel, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Goliath, donc les Juifs étaient embêtés tout le temps par les Philistins. Les Philistins, on ne peut pas dire persécutés, mais les Perses, ils harcelaient les Juifs. Ils harcelaient les Juifs. Bien. Et à un moment, ils ont envoyé leur héros, Goliath, pour narguer le peuple juif. Donc il y avait une guerre, genre de guerre de tranchées. Il y avait le camp des Philistins, le camp d'Israël, il y avait le roi Shaoul, et les Philistins envoient leur monstre là, Goliath, narguer en disant « À quoi ça sert de faire la guerre? Envoyez votre héros, qu'on fasse une guerre d'homme à homme, celui qui gagne, c'est l'autre qui sera soumis au peuple de celui qui, du vainqueur. » Il venait comme ça, 40 jours, à l'heure de la Tfila, Rachidi rapporte, ouais, alors où il disait Shema Israël pour les perturber, voilà. Et il y avait les trois grands frères de David étaient soldats, Eliab et ses autres frères, ils étaient soldats, et David était avec le petit troupeau là, il était berger. Et son papa lui dit, dis-moi fiston, Ta maman, elle a préparé des gâteaux, une galette, un petit pot de beurre pour tes frangins. Je dis des blagues, ça fait rigoler que moi.
C'est le petit chaperon rouge. Voilà.
Bon. Alors, mais c'est comme ça, des gâteaux et des fromages ouais, pour tes frangins. Et donc, il arrive là-bas. Il arrive. Waouh! Waouh! Bien Goliath. Waouh! Waouh! Ouais, vous êtes des incapables! Envoyez-moi quelqu'un! Et David, il arrive là avec le galette et le petit pot de beurre. Et alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est terrible! Oh là là, c'est terrible! Qu'est-ce que terrible, quoi? C'est imbécile! Quoi, c'est imbécile? Mais qu'est-ce que c'est imbécile? T'as vu comme il est horrible? T'as vu, il fait 3 mètres de haut! C'est horrible, c'est terrible, c'est Goldorak! Alors, il dit, Et David, il dit, et celui qui le bat, qu'est-ce qui se passe? Arrête, tais-toi! Qu'est-ce que... Oui, où t'as laissé les troupeaux de notre papa? Retourne au troupeau! Espèce de freluquet! Alors, David, bon, ok, ça va. Dites-moi, là, les gars, là, celui qui bat cet imbécile, ne parle pas comme ça, ça fait des jours et des jours qu'il nous terrorise. Bon, ok, d'accord, cet imbécile, là, celui qui le bat, qu'est-ce qui se passe? Le roi, il a promis de lui donner sa fille. Ah, ouais, c'est pas mal. Et où est-ce qu'il est, le roi? Où est le roi? Ah, non, dites-moi, ça va pas. Un petit jeune, là, machin. Et je veux voir le roi. Il va voir le roi, machin. Et le roi lui dit, dis-moi, je peux pas te donner le destin du peuple juif comme ça, un petit jeune qui arrive, c'est pas possible. Alors David lui dit, sire, je vais vous raconter quelque chose. J'étais berger du troupeau de mon papa. Et il y a un ours, un lion, qui est venu prendre un agneau du troupeau. Et moi, je n'ai pas voulu laisser les choses comme ça. J'ai couru après le lion, et ce n'est pas seulement qu'il y a eu un lion, il y a eu un ours qui est venu aussi pour chercher le mouton de la gueule du lion. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pris le lion, j'ai pris l'ours, et j'ai sauvé le mouton. Après, je me suis dit, mais pourquoi ça m'est arrivé un truc comme ça? Mais c'est fou. Qu'est-ce qui... Pourquoi ça m'est arrivé? J'ai réussi. Un lion. Alors, entre parenthèses, à l'époque, il y avait des lions et des ours en Eretz Israël. C'était bio. Alors, Donc... il y avait un lion qui a pris le mouton. J'ai couru après, j'ai pris le lion, il y avait l'ours qui voulait prendre le mouton, et je l'ai pris, bam! Après, je me suis dit, attends, j'ai réussi à sauver le mouton, mais pourquoi j'ai réussi? Pourquoi j'ai fait ça? Il dit, c'est sûr que Dieu a voulu montrer quelque chose. Je peux sauver le peuple. Je peux, sire, je peux. Je, Dieu m'a montré que je peux le faire. Vas-y, petit peu, vas-y. Alors, prends mes armes. Alors David, il essaie, il prend les grosses armes du roi. Non, sire, c'est bon, allez, j'y vais. Il a pris son t-shirt, il a pris sa fronde. C'est bon, allez, on y va. C'est bon. Et bon, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, les Chachamim nous apprennent du verset que David, il lui est arrivé quelque chose d'incroyable. Il a eu un remez Yeshua. Il a eu un signe du ciel qu'il pouvait affronter. C'est-à-dire, le mouton, finalement, il a vécu qu'il peut sauver des situations perdues, il peut sortir le mouton vivant de la gueule de ceux qui l'agressent. Il ne savait pas qu'il pouvait faire un truc comme ça. Mais il l'a fait. Il dit, mais pourquoi j'ai réussi à faire un truc comme ça? C'est que Dieu veut montrer que je peux le faire. Ça remet ses choix. Et les Rachamim nous disent, eh bien, il y a un deuxième tzadik à qui ça arrivait. C'est Mordechai. Mordechai s'est dit, mais pourquoi ma femme, qui est une tzadikette, que je connais, qui est une femme extraordinaire. Comment ça se fait, elle se trouve dans le harem de ce fumier? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, toujours, je me demande, mais ces deux signes, ils sont diamétralement opposés. Quel signe? Il n'y a pas un remède des choix ici. Il n'y a pas de signe de délivrance. Reprenons. On rembobine. David, lui, Dieu lui a fait un clin d'œil. Vas-y, petit. Il lui a dit, vas-y, tu peux le faire. Tu peux sauver le peuple juif. Mais là, Mordechai, quel signe il a eu? Quel signe de... Il y en a deux, ils ont eu. Remez Yeshua. Un signe de délivrance. Ça va bien, David. Mais Mordechai, où est le signe? Regardez, on va lire dans les mots Rashi et on va essayer de comprendre. Zéhad, Mishne Tzadikim, Shenitan Naem Remez Yeshua, David de Mordechai. Rashi relève, c'est quoi cette expression? Comment va Esther et qu'est-ce qui va advenir d'elle? Qu'est-ce qui va advenir? Peut-être il ne va rien advenir d'elle. Il va advenir. Peut-être il ne va rien advenir d'elle.
Peut-être que c'était trop énorme comme situation.
Comment?
Peut-être que c'était trop énorme comme situation pour que ça ne veuille rien dire. Que c'était une situation trop improbable pour qu'il ne faille pas voir derrière un message. Même si c'était négatif comme situation en soi par rapport à l'histoire de David. Mais c'était pas...
Oui, c'est parfait. C'est exactement ce que dit.
C'est trop énorme pour que...
C'est exactement ce que disent les Chachamim. Ce que vous dites, c'est exactement ce que dit Rashi. Je lis dans les mots, on reprend ce que vous dites. David, chez Neymar, David, comme il a dit au roi David, au roi Shaoul, Gam et Ari, Gam et Adov, Ika Avdecha. Aussi le lion, aussi l'ours, votre serviteur a frappé. Amar lo, Amar. L'oba le yadi davarze et la lismoralav le lachem imse. Ça m'est arrivé que pour s'appuyer là-dessus, pour avoir la force d'affronter Goliath. Veren Mordechai, de la même Mordechai, Amar. L'oira la tzadeket zo chez Tilakar le mishkav arel. Pourquoi c'est arrivé que cette femme vertueuse soit prise à la couche de cet incirconcis. Et là, chez Atida Lakum le Oshia l'Israël, c'est sûr qu'elle va se lever pour sauver le peuple juif. Le Fikar Ayam Chazer le Dat Maïe Besofa. C'est pour ça il allait jour après jour voir qu'est-ce qui va advenir d'elle. C'est ce que vous dites, à raison, que c'était trop gros. Mais là, ici, je pense que ça fait partie de ce que nous avons vu dans Maïmonide, cette dimension éternelle, finalement, de la Megillat Esther, où on a du mal à mettre à jour qu'est-ce qui est de l'ordre du miracle et de l'ordre de l'engagement, finalement, et de la réflexion humaine. De la réflexion et de l'engagement humain. Ici, justement, on est dans cette définition, c'est le contraire, si vous voulez, du jansénisme. C'est strictement le contraire. Là, c'est Mordechai qui décrypte une situation et qui s'engage face à ce qu'il décrypte. Et c'est, finalement, l'engagement réfléchi de Mordechai qui va enclencher le miracle. Le miracle ne vient pas, c'est pas Dieu qui sauve le peuple juif, comme ça, sur sa soucoupe volante. Ouais. C'est pas la rencontre du troisième type. C'est c'est Mordechai réfléchit à ce qui se passe et comprend que là, il y a quelque chose de particulier. Et s'engage. Pas seulement il le comprend, il s'engage. Et tous les jours, il va faire les 100 pas. Donc ici, il y a une dimension d'une réflexion, je dirais en acte, d'une réflexion qui va être accompagnée d'un engagement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Pour le moment, il n'y a rien à l'horizon. Pour le moment, il n'y a pas d'antisémites. Pour le moment, il n'y a pas le méchant Haman. C'est un petit scribouillard, troisième bureau. Bon, vous prenez vous allez au deuxième étage, troisième bureau à droite, vous trouverez Haman. Ouais, c'était rien de... C'est un scribouillard dans le palais. Mais donc, il n'y a rien de spécial. Mais il réfléchit. Et il s'engage par rapport à cela. Il se dit, mais comment c'est possible? En vérité, on aurait pu voir tout à fait le contraire. On aurait pu dire que, imaginez, je ne sais pas, moi, c'est essayons de voir la situation, c'est une situation terrible. C'est quelqu'un, je ne sais pas, il sort, il était au Sanhédrin à Gadol. Donc il était à l'intérieur du temple. Sa femme, j'imagine, elle a fait le séminaire de Getzed, le vieux séminaire. Ouais. Et elle se trouve concubine d'Hugo Chavez. C'est d'un fou furieux de il pourrait. Il pourrait à la limite justement faire pourim la nuit, être complètement déprimé et se dire bon ça n'a pas de sens.
Parce que nous on le voit en connaissant la fin. Mais si on se mettait à relire la Megillah sans connaître la fin, depuis le début, on vous dit que le sort d'Esther est abominable, mais celui de Vashti est mille fois pire. Elle s'est comportée comme il fallait et elle se fait zigouiller et elle disparaît de l'histoire. Et en arrêtant l'image à ce moment-là, on se dit mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on attend comme morale d'un texte biblique. C'est abominable. C'est le gentil, quoi, celui qui se comporte bien, qui en prend plein la tête.
Il faut voir l'histoire de Vashti. Oui, pourquoi elle a refusé on ne l'a pas abordé ce soir.
En tout cas, ce qui est dit sur le texte, c'est que c'est quand même déjà une question. Ensuite, l'histoire d'Esther.
Vous avez quelqu'un, je ne sais pas, il est dans une yeshiva à Kiryat Sefer, sa femme, elle a fait le séminaire Yashan à Jérusalem, et elle est prise chez un fou furieux qui est bocheron du soir au matin. Oui. Lui aussi va devenir bocheron, je veux dire, il ne va pas faire les 100 pas, donc quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Et je pense ici on voit une dimension éternelle. C'est quoi le Remez Yeshua finalement? Le Remez Yeshua, et je pense que ça c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est réfléchir à ce que nous vivons. Pas seulement réfléchir comme ça, je pense, donc je suis. C'est réfléchir et tirer des ressources de cette réflexion et s'engager par rapport à cette réflexion, parce que comme tu dis Patrick tout à fait a raison, il connaissait pas la suite du film. Nous on connaît qu'il y a un happy end, mais en vérité c'est même pas un happy end, parce que sa femme elle va rester au palais royal et lui il l'aura perdu pour toujours, caché avati. Il y a aucun happy end en vérité. Si, il y a un happy end pour le peuple juif, mais leur couple il est foutu. Leur couple est complètement foutu. Il n'y a aucun happy end, finalement. Mais il y a une réflexion. Il y a une réflexion sur notre existence. Et je pense que c'est ça, avait été. Et c'est à travers cette réflexion qui va faire. Si vous voulez, on pourrait dire dans notre existence à chacun, on peut se dire, est-ce que nous aussi on a un Remez Yeshua? Peut-être que tous, nous aussi, on est un peu comme David. On est entre David et Mordechai. Il y a des côtés... Chacun a des ressources insoupçonnées. Des ressources insoupçonnées. David, il ne savait pas qu'il pourrait sauver le mouton. C'est en le faisant qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait le faire. Il ne savait pas. Et il s'est appuyé là-dessus pour construire sa vie. est sauvé. Pas seulement lui, mais même les autres. Ça, c'est quelque chose dans notre existence que nous pouvons vivre. Parfois, on peut découvrir en nous des ressources que nous ne connaissions pas et construire quelque chose. Et construire pas seulement pour nous, mais de manière même aussi pour les autres. Construire quelque chose pour les autres. Et là-dessus, le miracle se fait. C'est pas un miracle Deus ex machina, Dieu qui arrive avec sa machine comme ça, de manière artificielle. Il y a un lien entre l'existence la plus prosaïque et la plus chaotique et la plus incohérente et une délivrance à travers ça. Je pense que ça, c'est un exemple, on peut le multiplier par tous les versets de la Megillat Esther, de l'éternité de la Megillat Esther. C'est ça l'éternité de la Megillat Esther. C'est une lecture de la création, de qu'est-ce que nous faisons nous, dans notre existence. Et c'est des miracles, en vérité, beaucoup plus forts que les miracles grandiloquents qu'on peut voir chez les prophètes, des miracles, on pourrait dire, qui sortent de manière éloquente de l'ordre de la nature. Là, ce sont des miracles, mais ces miracles sont enclenchés à travers notre expérience de l'existence. Je dirais, le Messilat Yesharim dit une chose, dit la chose suivante. Il commence, le Messilat Yesharim de Rabbi Yosef Chaim Moshe Chaim Lutzato, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, un de ses livres très célèbres, qui s'appelle le Messilat Yesharim. Il commence, il dit, l'homme, les premières choses que l'homme doit faire dans l'existence, c'est réfléchir à ce qu'il vit. Réfléchir à ce qu'il vit, il y a un Gemara qui dit Kol hasham ochotav zoche veroe beyeshuato beyeshuato shel HaKadosh Baruch Hu. Toute personne qui réfléchit aux détails de son existence aura le mérite de voir la délivrance de Dieu. C'est exactement ce que nous voyons dans la Megillat Esther. C'est pas Dieu qui intervient comme ça. Ce sont des tzadikim qui réfléchissent, qui méditent sur les détails bizarres de leur existence. Et qui s'engage, et après il y a les miracles de Dieu. Mais en quoi réfléchir sur notre existence amène les miracles de Dieu? En quoi ça amène les miracles de Dieu? Et je pense que Maïmonide explique ça. Que la réflexion, prendre au sérieux ce qu'on comprend, c'est une épreuve très importante de notre vie. C'est une grande épreuve. Il y a des choses qu'on comprend dans la vie. Qu'on comprend, c'est pas forcément... Et je parle pas des réflexions abstraites. Je parle des réflexions sur le prosaïque de l'existence. Des fois, on comprend quelque chose. Mais il y a tellement de pression physique, pulsionnelle, ou de place dans la société, que ce qu'on comprend, ce qu'on perçoit, on le met de côté. Prendre au sérieux ce qu'on comprend, c'est ça la délivrance, ça c'est un miracle. C'est de là que viennent les miracles. Prendre au sérieux ce qu'on comprend, il y a quelque chose qu'on comprend. Par exemple, je ne sais pas, dans quelque chose de social, dans le travail, il y a quelque chose, je comprends, je dois faire ça. Mais tout le monde me dit, tu ne dois pas le faire, ou c'est idiot, ou machin. Non, non, je comprends, je dois faire ça. Eh bien, malgré les pressions, prendre au sérieux, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, allez, moi je comprends ça, je reste là-dessus, à toi de m'aider. C'est un donnant-donnant entre la réflexion, c'est à travers la réflexion sérieuse, engagée, que on tisse une relation à Dieu. C'est ce que Maïmonide dit à partir de la première Mishnah du deuxième chapitre du traité Ragiga. La Mishnah dit comme ça. Toute personne qui n'a pas d'égard à la gloire de son Créateur, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas venu au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire de son Créateur? Maïmonide dit, c'est la réflexion. C'est ce qu'on pense. Par exemple, il prend un exemple. Quelqu'un sait que tel aliment est mauvais pour sa santé. Il le mange quand même. il dit, c'est, il n'a pas gloire, il n'a pas d'égard à la gloire de Dieu. Parce que, donc ici, on voit que c'est la réflexion, ce n'est pas forcément la réflexion sur la métaphysique, c'est des choses de l'existence. Je sais que ça, c'est mauvais pour ma santé, je le mange quand même. Il dit, ça veut dire, ce qu'il pense, il ne le prend pas au sérieux. Mais le prendre au sérieux, ça veut dire que par ce monde-ci, on a un lien avec le Créateur. Et que le Créateur est libre à l'intérieur de sa création. Et quel est le lien que j'ai avec le Créateur? C'est à travers ma pensée. À travers ce que je comprends. Ça, c'est la dimension éternelle. Éternelle que nous voyons dans le Megillat Esther. On peut développer. Mais je pense que ça, on voit à travers... Il comprend quelque chose. Mais pourquoi mon épouse? C'est pour ça, dire que c'est l'épouse de Mordechai est extrêmement riche. Son épouse, ça veut dire qu'il la connaît. Excusez-moi l'expression, c'est sa copine. Il la connaît. Il sait qu'elle n'a rien à voir avec ce type. Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors, il pourrait dire, ma vie n'a aucun sens. Mais ok, d'accord, ça n'a aucun sens. C'est vrai, ça n'a aucun sens. Comme tu dis, ça n'a aucun sens.
Il dépasse la souffrance.
Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ça se passe? Pourquoi ça se passe? Il dit, il y a quelque chose de pas normal. Il faut que je voie. Et tous les jours, jour après jour, il vit quelque chose qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui ne prend pas au sérieux justement sa réflexion pourrait terminer complètement déprimé. Lui, il dit, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et jour après jour. Et c'est là que toute la délivrance va se passer. Et on voit qu'en vérité, toute la Torah se trouve là. Le premier juif, c'est Avraham Avinu. Nous disons, classiquement, qu'Avraham a été jeté dans la fournaise ardente. Mais en vérité, Avraham a compris qu'il y avait un seul Dieu créateur. C'est-à-dire que le Dieu créateur agissait dans la création. Contre tous ses contemporains qui pensaient qu'il y avait un Dieu créateur qui avait tout délégué à des forces telluriques, qu'il fallait servir ces forces telluriques, ce qu'on appelle idolâtrie. Il a dit non, j'ai compris que non, ce monde n'est pas abandonné. Ce monde n'est pas abandonné et qu'il y a un sens à l'intérieur de ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été jeté dans la fournaise ardente. C'est-à-dire, la fournaise ardente, c'est la vie. C'est la fournaise ardente des pressions de l'existence qui sont là pour nous faire voir. Ce que tu comprends, tu ne peux pas le vivre. Mais prendre au sérieux ce qu'on comprend et que je peux le vivre, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de le vivre. Pas seulement à nous, mais c'est pas seulement une dimension individuelle, ces dimensions apportent à l'ensemble du peuple juif, à toute l'humanité. C'est un cadeau qu'on fait à toute l'humanité. C'est ça, Kolasham Okhotav, toute personne qui réfléchit sur ce qu'il vit, qui prend au sérieux sa réflexion, il verra la délivrance de Dieu. Pas seulement la délivrance individuelle, mais la délivrance même collective. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'éternel. C'est pour ça, à travers la Megillat Esther, où le nom de Dieu, justement la Megillat Esther, où le nom de Dieu n'est pas apparent, c'est la dimension éternelle de la dimension de l'existence humaine. C'est ce que Menachem, tu disais tout à fait justement tout à l'heure, c'est, on pourrait dire, il y a les 5 livres de la Torah. C'est bien, 5 livres de la Torah. Maintenant, comment cette Torah, elle se vit? Comment on la vit, la Torah? Megillat Esther. C'est le manuel de survie. Il y a le manuel de survie en Dilson. Dans ce monde-ci, c'est la Megillat Esther. Donc, c'est le pendant de 5 livres de la Torah. Voilà. Bien.
Excusez-moi, vous avez parlé avec Yitro, qu'il a compris qu'il y avait un seul Dieu, il a compris ce qui s'est passé.
Oui, mais ça, c'est métaphysique. C'est métaphysique, Yitro.
Parce qu'il a fait une réflexion.
Voilà, oui, oui, mais c'est métaphysique. C'est plus métaphysique. Là, c'est dans l'existence. C'est plus dans l'existence, dans la vie, vraiment, dans le chaotique de l'existence.
Moi, ce qui va arriver en haut, pareil.
Elles étaient. Ah bon?
Bah oui, donc les.
Ah, je sais.
Je pense pas qu'il y aurait une la situation que.
Je savais, non, j'ai jamais vu ça. C'est bien, c'est bien.